ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 56 avec Stéphane depuis le Périgord. Jaftamer, l'émission de l'association Équité Parentale. Aujourd'hui, nous faisons dans le local avec Christina Forest de Périgueux, thérapie intégrative, médiation, formation, communication relationnelle adulte et adulte-enfant. Christina reçoit, elle fait de l'accompagnement, notamment pour les divorces, agir avant le divorce, et nous aurons avec elle une discussion en quatre parties. Nous parlerons notamment de parentalité positive, de médiation des conflits et parentalité, d'égalité homme-femme. Mais auparavant, Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste en libéral et services publics, qui va nous parler de la construction de l'enfant et des conséquences sur lui des séparations de ses parents durant sa petite enfance, pour justement sa construction intérieure, ses premiers amours, ses premiers émois. Voilà, ne bougez pas, c'est tout de suite après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Aujourd'hui sur RLP avec Monsieur Thierry Lavergne. Thierry, vous allez bien ?
Oui, très très bien, très heureux de vous retrouver.
Oui, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons demander quelles sont les conséquences des séparations parentales dans la petite enfance sur les premiers émois dans la construction des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ?
Disons, ce qu'il y a à dire surtout, c'est que les enfants ne doivent pas rester dans l'ignorance de ce qui se passe entre leurs parents. La question de l'amour entre les parents est une question qui interpelle évidemment beaucoup les enfants, quel que soit leur âge. Et quand des parents sont capables de dire « on s'est aimé, on ne s'aime plus, on s'est aimé, on s'est rencontré, on ne s'aime plus, on se sépare », ça peut faire craindre à l'enfant que le même parent puisse lui dire « je t'ai aimé puisque tu étais mon enfant, mais je ne t'aime plus, donc on se sépare ». Alors, la première prudence, c'est de bien rappeler à l'enfant que l'amour parent-enfant est éternel. Voilà, c'est à vie. Ça dure pendant toute la vie. Mais que l'amour entre deux personnes qui se sont choisies pour faire un enfant ou pour se rencontrer ne dure pas nécessairement toute la vie, mais que ce n'est pas le même type d'amour que l'amour filial ou l'amour parental. Déjà ça rassure beaucoup les enfants de se savoir aimer finalement de manière éternelle et quels que soient les aléas de la vie conjugale de leurs parents.
Non, c'est important, ce sont des phrases à dire, je suis d'accord avec vous.
Voilà, est-ce que ça a des conséquences sur les premiers émois ? Alors les conséquences, il y en a beaucoup, alors je sais pas trop combien il me reste de temps là.
Une minute.
Alors disons qu'en une minute, les conséquences pourraient être quelque chose du registre de l'identification. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va grandir et passer par l'adolescence, il va rechercher autour de lui des modèles identificatoires chez les adultes qu'il fréquente, que ce soit ses parents, les enseignants ou les beaux-parents, et que ces modèles identificateurs peuvent avoir un effet sur le type d'adulte qu'il va devenir. Mais c'est pareil, rien n'est prédestiné. Si l'enfant a la capacité, la possibilité d'échanger, de parler, de poser des questions, de trouver des réponses aux questions qu'il pose aux uns et aux autres, eh bien, il pourra se faire son propre destin, dessiner lui-même sa façon d'être au monde, sa façon d'être sujet, et donc sa façon de ressentir les premiers émois et de s'engager dans les premières amours qu'il va pouvoir rencontrer. Le point que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a tout de même un chemin à montrer pour les premiers émois. Et ce chemin, eh bien, on peut pas le montrer si l'enfant pose pas de questions. Donc, la première des précautions, c'est d'être disponible, quoi qu'il en soit, que ce soit pour répondre sur le goût d'une pizza aux quatre fromages ou pour répondre sur ce qu'il y a à redouter dans les premiers émois amoureux.
Être disponible et instaurer la confiance.
Oui, voilà, ça doit rester la règle.
Merci, merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Christina Forest. Christina Forest, espace relations, thérapie intégrative, médiation, formation, communication relationnelle adulte, adulte-enfant sur Périgueux, du site espacerelations.com. Nous faisons dans le local aujourd'hui. Christina, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour Stéphane.
Oui, bonjour, merci d'être venu nous voir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter votre activité, dire ce que vous faites, pourquoi vous le faites, qui vient vous voir, etc. Dites-nous.
Oui, voilà. Alors donc, déjà pour expliquer mon petit accent, je suis d'origine allemande et je vis en France depuis 1984 et j'ai la nationalité depuis. Pour vous parler un peu de moi, de mon chemin de vie, quand j'avais 16 ans dans la cour de récré de mon collège, un ami m'a fait une parole très blessante. Ce dont je me souviens, c'est que je suis rentrée à la maison, je me suis assise sur mon lit et je me suis dit, il m'a dit ça, il faut que je trouve mieux que lui. Maintenant, j'en souris, si vous voulez. En même temps, à l'âge de 16 ans, on est très investi de cette idée ou de cette intention. Et en même temps, il y a toute une réflexion qui a commencé à ce moment-là. À quoi est-ce que ça sert de se juger, de se refaire, faire de reproches? Est-ce qu'on peut faire différemment? Et surtout, cette notion de dualité où on scinde le monde en deux, entre raison, tort, bien, mal, etc. Donc, j'ai toujours, dans tout ce que j'ai fait, depuis bientôt, je vais avoir 60 ans bientôt, c'est vraiment plus un questionnement quotidien parce que j'ai trouvé un peu les réponses aux questions, mais juste vraiment transmettre comment on peut faire différent que être dans la posture raison tort et voilà, bien mal quoi.
Alors sur votre site internet qui s'appelle espacerelations.com, je vois que vous vous formez en 92 à l'écoute psycho-énergétique, vous faites une formation en PNL en 98, vous travaillez selon les écrits de Marshall B. Rosenberg qui est fondateur de la communication non-violente, et vous avez une formation de formateur, la pratique des réunions en entreprise, facilitation en dynamique collaborative, régulation émotionnelle Tipeee enfant-adulte, pratique des conférences familiales, programme de soutien familial et parentalité, enfance et compétences psychosociales, etc. Donc là, on voit bien tout ça. Alors, qui vient vous voir dans votre cabinet et qu'est-ce qu'ils vous demandent et qu'est-ce que vous faites avec eux ?
Voilà, alors selon le cas ou la demande, effectivement, ça peut être des parents qui me demandent comment est-ce que je peux communiquer différemment avec mon enfant de manière à ce qu'il se sente bien, qu'il se sente compris, que la relation se passe bien à la maison. Donc ça, c'est côté...
Donc de l'aide à la parentalité.
Oui, exactement, soutien, l'aide à la parentalité. Ensuite, ça peut être des couples qui sont en difficulté à communiquer. Très clairement, à la maison, où vite le ton il monte, ou bien encore des personnes en individuel qui ont envie de développer une meilleure vision d'eux-mêmes et pouvoir mieux se placer dans la relation aux autres dans leur vie quotidienne.
D'accord. Donc, vous faites en fait du conseil aussi de gestion de couple pour aider les gens à surmonter les difficultés de couple qu'ils ont. Quand ils viennent vous voir, comment est-ce que vous répondez à leurs demandes ? Vous discutez avec eux, vous donnez des conseils ? Comment ça se passe ?
Oui, voilà. Alors, ça dépend de la demande du couple. Ou bien, ils sont dans une démarche commune. Ils viennent me voir en disant, voilà, Christina, au fait, nous, on se rend compte que dans le quotidien, comme je disais tout à l'heure, le ton, il monte vite entre nous. On en est chagriné. On a vraiment envie d'arriver à s'entendre mutuellement, à savoir s'exprimer sans générer un conflit. Comment fait-on ? À ce moment-là, voilà, donc je leur enseigne la pratique du message « je », qui est donc un outil qui, à ce moment-là, est posé au sol. Il y a des étapes colorées qui sont au sol, où chacun évolue dessus avec un sujet de dispute de la vie de tous les jours. Voilà. Donc, c'est une appropriation de cette compréhension, déjà, du message-jeu, et aussi expérimentation, et après, à transposer dans la vie de tous les jours. Ou bien, cette demande se situe à ce niveau-là, ou bien c'est une demande de médiation, tout simplement. Voilà, on veut juste venir deux, trois fois, on a quelques sujets chauds à voir en commun.
D'accord, bon écoutez, nous allons parler, après la pause, de parentalité positive.
De nous deux, amoureux, qui baillera le premier, qui se jettera le dernier à flot, qui boudra, qui sera le saoulé, qui effacera la craie du tableau et qui croira encore que tout ça vaut le coup, qui cherchera des poux invisibles, qui de nous, amoureux, reprendra ses flèches pour les lancer sur une autre cible.
La mer est calme, je la regarde et j'attends les remous.
RLP 102.3 avec Christina Forest. Christina Forest qui fait du conseil, de la parentalité positive, de la médiation, de la parentalité positive. Tiens donc, qu'est-ce que la parentalité positive, Christina ?
Voilà, donc la parentalité positive est un terme qui fut défini en 2006 à Lisbonne lors d'un conseil des ministres chargé des affaires, conseil européen des ministres chargé des affaires familiales. Et c'est, pour vraiment faire très très bref, c'est que il fut dit que les parents, ils ont besoin d'être soutenus dans leur fonction parentale pour arriver, comment je pourrais dire ça? Oui, pour que l'éducation à la maison se passe bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent finalement dans la vie pour les enfants et aussi dans la vie sociétale. Et chaque pays a mis en place des mesures différentes. Et en France, il y a beaucoup de formations qui sont proposées aux parents. Il y a des ateliers qui sont proposés aux parents où il est question de comment moi je me vis en tant que parent, quelles sont les difficultés que je rencontre et comment je peux faire au mieux pour moi dans la vie tous les jours, sachant que les parents, il y a beaucoup de contextes différents. Ça peut être la monoparentalité, famille recomposée, etc. Voilà.
Et vous travaillez également pour la Caisse des allocations familiales de Limoges, je vois, l'Institut médico-éducatif Bayo-Sarrazy de Coulommiers-Chamiers, le Centre national de la fonction publique territoriale du Limousin, la coopérative d'utilisation matérielle agricole de Saussignac, Agrobio Périgord à Coursac, l'Institut de formation pour aides-soignants, visite des malades. Qu'est-ce que vous faites en fait dans cette entreprise-là ?
C'est selon la demande, vraiment. D'accord. Alors, à chaque fois, au fait, je me suis rendu compte, au début, j'ai commencé en 2011, quand j'ai donné mes premières formations en communication bienveillante, on va dire ça comme ça, ou voir encore en écoute active, j'ai pas réalisé au début que, au fond, à chaque fois, une demande qui me fut faite, et je pense d'une manière générale, même pour les autres collègues, la demande en général qui est faite pour ce type de formation vient à partir d'une difficulté rencontrée ou une envie de que ça se passe mieux ou différemment, c'est-à-dire en situation de conflit ou par exemple pour tout ce qui est relation adulte-enfant, c'est comment m'approprier des outils en tant qu'adulte pour répondre au mieux aux besoins de l'enfant. Hein, pour vraiment optimiser son développement, voilà, affectif et social. Et dans la communication adulte-enfant, je me suis rendu compte que il y a quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La façon de communiquer, c'est toujours et encore sous forme de jugement. Alors jugement est à entendre ici sous forme d'avis, en fait. C'est pas bien ce que tu fais. Tu devrais faire ça. Ou ton frère réussit mieux ses études que toi, tu ne le fais, voilà. C'est compliqué pour l'enfant à l'entendre parce que son intention n'est jamais, jamais de faire un chagrin. Ce n'est jamais de pas bien réussir ses études. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. La façon dont on s'adresse aux enfants, c'est que est-ce que je le fais sous forme de jugement et d'avis qui risque de l'enfermer dans quelque chose qu'il n'a pas souhaité pour lui, ou est-ce que je lui exprime en quoi je lui dis ça, à partir d'où, à partir de quelle observation faite, je lui dis ce genre des choses qui m'inquiètent en général, hein, quand on est dans le cadre parent-enfant par exemple.
Oui, donc on rentre encore dans cette difficulté de comprendre que structurer, mettre des limites, c'est construire, mais que oui. Agresser, c'est détruire. C'est
absolument.
Un peu toujours la même ritournelle qu'on entend parmi nos intervenants et elle n'est peut-être pas encore rentrée dans toutes les parentalités. Néanmoins, est-ce que vous avez l'impression qu'il est possible de construire, de mettre des limites aux enfants ? Enfin, c'est nécessaire, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la société a tendance parfois à enlever un peu trop ces limites ?
Ah oui, et ben voilà. Donc,
l'enfant roi.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Parce que depuis le... Comment je pourrais dire ça? Depuis le terme défini avancé du Conseil de l'Europe, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une confusion dans la perception du terme parentalité positive dans la tête des parents, ce qui... Au jour d'aujourd'hui, donc, enfin, au moins de ce que je peux observer, moi, ont vraiment envie de bien faire. Ils ont vraiment envie que l'éducation se passe bien, que l'enfant soit heureux, qu'il devienne autonome dans la vie, qu'il ait une bonne estime de lui-même. Et en même temps, ils oublient au passage que ça, la relation aux autres se construit dans la relation avec l'autre. Si le parent, dans l'idée de rester positif, tout au long de la journée, quoi qu'il se passe. Et comment je pourrais dire ça, Stéphane? C'est-à-dire qu'il se met un frein à lui-même.
Ben la vie, vie est celle qu'elle est. Elle n'est pas toujours un ruban rose. Et il faut être capable aussi de gérer des situations difficiles. Hein. Tous les professeurs ne sont pas forcément appréciés lorsqu'on est en phase 2. Ils n'ont pas tous un même niveau. C'est partie de la vie, tout ça. Hein.
Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait ça. Et moi, je dis attention aux parents, la parentalité positive, à mon sens, c'est une idée vraiment intéressante à développer. Quels sont les moyens et les outils que j'ai pour la vie de tous les jours de dire avec à mon enfant avec bienveillance que là, ce n'est pas possible. Et en même temps, il faut dire à l'enfant là, ce n'est pas possible. Et ça, je le dis avec autant de références possibles.
De nous deux amoureux, lequel connaîtra d'abord la paresse des caresses, se jettera alors dans des discours sans fin, se noyant sous quelques prétextes, qui tombera de haut, se tordra les boyaux, qui sera la première des victimes. Lequel de nous deux amoureux prépare en secret le grand crime?
Admettons, voilà, il y a deux enfants qui jouent par terre, un enfant de 2 ans, un autre enfant de 3 ans, frère, sœur, et l'enfant de 2 ans a un camion dans la main, rouge, avec un bord un peu coupant. Voilà, ça devrait pas, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, voilà, il est un peu coupant. Et l'enfant de 3 ans, juste à côté, se sent attiré par cet objet rouge. Et à 3 ans, il a pas conscience, il peut pas réfléchir, est-ce que c'est mon frère, mon frère, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est juste, il est attiré. Et donc, sa main se tend vers ce camion rouge qui est l'objet de plaisir du petit à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante. En fait, le petit garçon de 2 ans, il va se sentir irrité dans son occupation. C'est-à-dire qu'il est en relation avec le camion, avec le plaisir, et pof, il y a une main qui arrive sur la droite, qui veut lui prendre le camion. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane?
Il va le faire. Il a une pulsion, il tend la main, et puis il prend le camion. Et puis l'autre se met à pleurer parce qu'on lui a pris son jouet.
Oui, exactement. Sauf que celui qui a pris son jouet, son intention, parce que juste pour finir la scène imaginée, au fait, il va se sentir dérangé dans son plaisir de jouer. Donc, en général, quand on est dérangé, il y a un stress qui s'enclenche. Et en général, on réagit comme notre cerveau archaïque depuis je ne sais pas combien, milliards d'années, une réaction d'agressivité ou de repli sur soi ou de fuite. Et dans ce cas-là, admettons, il tape sur le petit garçon ou il le blesse sur la tête. Qu'est-ce que moi, je réagis comme parent? Admettons, je prends la main du petit, je lui tape dessus. Tu ne dois pas taper ton frère, c'est vilain ce que tu fais.
Non, si voilà, on tape, on agresse.
Voilà, c'est ça. On tape, on agresse et on juge.
Déjà, on va aller le soigner, celui qui saigne, là.
D'ailleurs, pendant qu'on
on va commencer par ça, déjà. Oui, voilà. On va les séparer.
On va
regarder à l'autre, t'as vu ce que t'as fait? Puis souvent, il va se dire, oh mince, j'ai fait ça, parce qu'en phono, lui, il voulait pas le faire. Hein. La plupart du temps, si je me rappelle mes enfants à moi, comment ils réagissent, hein, ils avaient pas du tout envie de faire les bêtises qu'après, ils regardent des grands yeux écarquillés. Ah bon, c'est moi qui ai fait ça? Et puis, on va aller soigner l'autre. Hein. Et puis après, on va lui dire, t'as vu, faut un petit peu t'écouter, hein, on n'est pas des animaux. Quand on dit de faire un truc, faut réfléchir avant de le faire, parce qu'autrement, après, il y a des conséquences. Voilà.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que pendant qu'on fait tout ça, qu'on soigne l'enfant, on explique la situation à l'enfant. On lui dit, voilà, écoute, là, tu viens de blesser ton frère, je comprends que, au fait, t'en avais pas envie, c'est ton camion rouge, tu jouais avec, t'étais bien, et en même temps, quand on tape comme ça avec le camion rouge, eh ben, ça amène une blessure, ça fait pleurer. Il faut toujours que les parents, en fait, donnent des références, donnent des explications aux enfants de ce qui se passe, en fait. Okay. On quitte le mode de fonctionnement des jugements et des reproches. On amène une sorte d'ouverture à l'enfant en disant, voilà, observant, en regardant la situation ensemble. Mais bon, ça, je l'explique quand même beaucoup mieux et d'une façon beaucoup plus adaptée en cabinet aux parents en relation avec leur quotidien et les difficultés qu'ils rencontrent.
La mer est calme, je la regarde. J'attends les remous, les grandes lames, elle est là-bas. Qui emporte tout? Qui emporte tout?
Donc nous allons enchaîner après cette gestion des conflits des enfants sur la médiation des conflits, la parentalité. Vous avez des parents en situation parfois de conflit qui viennent vous voir?
Oui.
Oui. Ah oui. Alors comment vous gérez ça? Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que les parents d'aujourd'hui sont ceux d'il y a 20 ans? Qu'est-ce que vous voyez comme schéma répétitif? Bon, de manière synthétique, assez rapidement, quelle vision vous avez du secteur en fait des séparations conflictuelles avec enfants?
Disons qu'il y a une vraie demande d'égalité de la part des deux, c'est-à-dire que aussi bien de la part du père que de la part du mère d'être actif dans l'accompagnement de l'enfant vers la vie, dans l'éducation. Donc ça, c'est très clair, c'est plus comme dans le temps où il y a vraiment, moi j'ai grandi dans une famille traditionnelle, maman au fourneau, papa au travail, donc c'était mes références à moi. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est un vrai investissement de la part des deux et une vraie envie que ça se passe bien. Après, ce que je rencontre des fois, c'est la divergence d'éducation. Là, c'est un sujet un peu difficile parce qu'on est tous imprégnés par notre propre histoire et on a envie que tous les deux, que ça se passe bien, hein, l'éducation, que ça se passe bien. Et des fois, on peut vraiment pas être d'accord sur l'éducation des enfants et ça gère beaucoup d'angoisse hein, chez les parents. Donc, ce que je propose, c'est que on s'assoit, on échange, le parent me donne sa vision de comment il va la chose, je sais pas, pour le brossage du dent le soir, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est-à-dire que mon travail consiste à chaque fois traduire au fait de ce qui est dit ou présenter en dire et en comportement en besoin vécu.
Hein, alors dans les couples que vous avez aujourd'hui, vous voyez le papa qui s'investit, qui rentre dans la parentalité?
Oui.
Et comment réagit la maman? Ça se fait bien, j'ai dans la société civile, vous en tant que professionnel, quand vous les voyez arriver, on n'est plus dans ces schémas de nos parents, de nos grands-parents, on est vraiment sur un couple avec les deux qui s'impliquent en fait dans la petite enfance.
Oui. Hein,
il me semble qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ça.
Oui.
Les mères arrivent à laisser les pères rentrer dans cette sphère familiale qui, dans notre inconscient collectif, là, dans la société, leur est plus ou moins réservée. Elles arrivent à faire l'espace aux pères comme il faut ou est-ce qu'il faut qu'ils luttent pour l'avoir?
Alors ça dépend, vraiment ça dépend chaque relation de couple, de ce que j'observe d'une manière générale. Oui, il y a une demande de la part de la maman de cette notion équitable dans l'éducation père-mère et en même temps, il faut pas oublier d'où nous venons, Stéphane. C'est-à-dire que nous ne le connaissions pas dans le passé. Donc, dans le futur, on a toujours nos références du passé qui nous rassurent.
Cela Meunier du CNRS, ses travaux montrent que les schémas que nous avons, les stéréotypes que nous avons, datent de la révolution industrielle. Mais qu'avant la révolution industrielle, les pères et les mères partageaient les tâches au champ, au niveau des enfants, que dans les tribus anciennes, les mères participaient à la chasse. Donc en fait, ce stéréotype de la mère qui gérait la famille et l'enfant et le père qui allait travailler date de la révolution industrielle. Donc en fait, on est en train de repartir à ce que nous avions avant.
Oui, voilà, en quelque sorte. Sauf que entre temps, il y a l'évolution qui est passée par là, qui a amené son lot d'apprentissage.
Oui, bien sûr, les habitudes.
Ouais. Oui, les habitudes. Donc, mais en tous les cas, je peux reprendre très clairement. Oui, une vraie demande de la part des deux. Après, c'est la question comment ça se négocie. Voilà, comment fait-on pour faire ensemble dans un but commun, dans une intention commune, en fait. Et là, ça secoue quand même des fois. C'est pas du tout les mêmes visions, d'autant plus quand il y a des peurs un peu qui sont en dessous, comme le lâcher prise ou autre.
D'accord. Et en situation de conflit, lorsqu'ils commencent à se séparer, est-ce que il y a aussi, est-ce que la place du père est gardée dans la famille, ou est-ce qu'il y a parfois un sentiment de rejet ou d'exclusion qui peut se produire lorsqu'ils commencent à moins s'entendre? Qu'est-ce que vous avez observé, vous?
Je n'ai pas encore eu ce cas, Stéphane.
D'accord. Vraiment, vous n'avez pas vu de parents qui étaient en train de se séparer et avec des parents qui se battaient pour la garde de leurs enfants, par exemple?
Non. Pas actuellement, pas pour l'instant dans ma clientèle, non. J'ai pas encore eu cette, je me suis pas encore trouvée dans cette situation d'accompagnement. Faut dire que beaucoup de parents, donc, sont dans l'idée de la parentalité positive, donc, ils sont une vraie démarche de faire différemment.
Et ils sont encore ensemble et ils s'entendent.
Voilà, c'est ça. Ils sont encore ensemble ou ils trouvent un terrain d'entente de comment ils peuvent faire tout de même ensemble tout en étant séparés. Ça, oui, je l'ai eu. Donc, ils se sont bien organisés, ils se sont bien entendus. Mais comme par exemple, j'ai pu l'entendre dans votre émission 50 et 51 avec Stéphane qui parle vraiment avec beaucoup de... Enfin, bon, bref, c'est quand même fort, hein, ce qu'il vit de cette façon, non. Et en même temps, je trouve vraiment les conseils que vous avez donnés à Stéphane, c'est vraiment intéressant dans le sens, j'ai noté le nom déconflictualisé. C'est un chemin qui demande beaucoup de rigueur, en quelque sorte, et beaucoup d'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et en même temps, je ne vois pas comment on pourrait faire différemment, parce que quand on se trouve dans une situation de divorce, on est forcément dans une notion de ping-pong, comme vous dites, ou de dualité, ou de raison tort. Et ça, c'est très, très difficile pour, au niveau blessure à vivre. Et en même temps, il faut absolument trouver ce qu'on peut appeler le chemin du milieu. Mais c'est presque un enseignement de quelque chose.
Ah, mais ce que j'en déduis de ce que vous me dites là, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. La preuve, les gens qui veulent s'entendre et qui viennent vous voir ont moins de problèmes que ceux qui s'enferment dans le conflit. C'est aussi ça qu'on va voir. Si je vous posais la question, comment, en fait, si vous n'avez pas à gérer ça, c'est que les gens qui viennent vous voir, y compris en période de séparation, sont des gens qui essaient de faire les choses intelligemment. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Et la solution dans les séparations, c'est si on n'y arrive pas, on va avoir une médiation et on essaye en bonne volonté de privilégier l'intérêt des enfants.
Oui. Absolument. C'est tout à fait bien résumé, Stéphane. Et je ne peux, pour rajouter à ça, partager mon expérience en médiation. C'est que, en fait, les gens, quand ils viennent en médiation, je mets en avant non pas la recherche de solutions qui va en découler à partir du moment où la médiation se passait bien. Pourquoi la médiation se passait bien? Parce que un cadre est défini, chacun à sa place, son temps de parole, par exemple, si c'est nécessaire, fut au préalable vu ensemble pour quelles raisons les parents viennent, dans quelle intention, au fait, ils viennent aussi, qu'est-ce qu'ils attendent de la médiation, et à chaque fois, les choses sont validées de cette façon, les personnes se détendent, ils se sentent rassurés parce qu'ils sont compris dans leur démarche, dans leur besoin, dans leur demande. Ça ne veut pas dire que c'est facile ou c'est aisé, mais c'est d'abord l'écoute, la compréhension des besoins vécus, et ensuite la recherche de solutions se fait souvent par elle-même, en fait.
D'où l'intérêt, et nous militons pour, à promouvoir les solutions de médiation et de négociation avec des professionnels qui apaisent le conflit et qui aident les gens à résoudre leurs petits soucis en évitant les logiques d'enflammement et de conflit. Voilà.
Oui.
Très bien. Mm-hmm. Eh bien, c'était Christina Forêt sur RLP, qui est sur Périgueux. Alors, comment est-ce qu'on vous trouve, si on veut vous voir? Allez-y, dites-nous.
Voilà, ou bien par mon site espacerelation.com, ou en m'écrivant directement Christina, comme Christine en français, mais avec un A à la fin, @forest@orange.fr.
Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup. Et puis,
merci à vous,
bonne
Stéphane.
Journée, à bientôt, au revoir.
Oui, très bonne journée, au revoir.